Ça va, donc nous pouvons continuer à discuter ces choses, mais maintenant c'est à vous de dire ce que vous avez envie de dire. Pas d'argent.
On m'a dit à la pause qu'il manquait sur la scène un médecin ou un psychiatre. Et il se trouve que je suis médecin et psychiatre. J'aimerais peut-être dire que j'ai beaucoup apprécié votre débat, mais qui, pour un clinicien, ne vise qu'une petite fenêtre de l'esprit qui est dans le fond l'esprit cognitif. On est dans un monde numérique, on est dans un monde informatique, on est dans un monde de la physique. Et dans le fond, j'aimerais vous dire mon quotidien qui est très absent de ce que vous avez apporté ici, parce que dans le fond, pour le clinicien, l'esprit, il est d'abord dans le corps. C'est-à-dire les gens, ils vivent leur esprit de manière très incarnée. Le cœur, les organes intestinaux et d'autres, plus bas placés encore, etc. Donc ça, c'est quand même ça qui préoccupe l'esprit en première intention. Et puis, bien sûr, surtout, c'est que l'esprit, pour le clinicien et pour le biologiste humain que je suis, c'est dans les relations qui s'installent. Et dans le fond, toute la dimension intéressante de l'esprit aujourd'hui, c'est l'interaction entre les esprits. C'est aussi cette question de l'humanité et de la communauté et, dans le fond, du monde, de l'expérience partagée. Donc, si on devait dire où est l'esprit, c'est une question que je pose à mes étudiants. Ils disent, il est dans le cerveau. Je dis, oui, bon, d'accord, so what. Mais il est aussi dans le corps. Et puis après, ben, il est aussi dans le langage. Il est dans ce qu'on a vécu dans notre famille, dans notre culture, sur notre planète. Enfin, finalement, pour faire un seul esprit, il faut tout le machin. Il faut tout l'univers. Et alors, ça ne limite pas à ce que font les machines, ça ne limite pas à ce que fait l'ordinateur. On touche à de l'infiniment complexe, à de la singularité. Et c'est bien ça qui fait la différence entre un être humain et une machine. C'est cette position de singularité dans l'univers. François Fleuret est unique dans l'espace-temps. Et puis, Wolfram Gerstner est unique dans le cosmos en termes d'équations spatio-temporelles. C'est peut-être ça qui fait aussi la différence. Le corps, la relation, la singularité.
Alors, j'ai une remarque qui rejoint le dernier terme de monsieur. Je ne sais pas où vous êtes.
Monsieur le patient.
C'était votre... Sur l'unicité de la personne. Votre exemple, si le robot et l'ami tombent à l'eau. De toute façon, je laisserai le robot parce que toutes les cellules sont fichues une fois qu'il y a de l'eau dedans. Donc, ça ne sert à rien de le sauver. Mais surtout, votre robot, vous allez pouvoir en refaire 1, 2, 5, 100. Ils seront tous identiques. Ce n'est pas un problème. Votre ami, si vous le noyez, il n'y en aura pas un deuxième identique. Chaque homme est individu.
Ça veut dire que si on pouvait dupliquer les humains, mais faisons une expérience de pensée. Si on avait un appareil qui nous duplique atome pour atome un humain, ça me manque.
Ah, d'accord. C'est une machine, ça ne parle pas à l'humain.
Ah,
c'est
intéressant. Alors, pour répondre pour les deux, aux deux questions ensemble, je suis absolument d'accord que cette unicité, spécificité de chaque individu, je suis aussi d'accord avec l'aspect intégration dans le corps. Alors, il y a cet aspect de conscience de son corps que mon collègue Olaf Lange, par exemple, étudie de façon expérimentale aussi. Et ça se base beaucoup sur les aspects de l'intégration de plusieurs modalités. Alors, un bébé ou un humain, il peut observer son bras. Alors, on met ensemble la vision du mouvement avec la représentation des muscles dans le cerveau de ces mouvements-là. Et je peux imaginez que c'est ce bras avec cette configuration-là qui est intégrée à travers de mes expériences dans mon cerveau avec mes expériences. Ensuite, il y a, comme vous dites, il y a plusieurs dizaines d'années d'expérience que j'ai intégrée d'une façon ou l'autre, qui est bien sûr représentée par mon cerveau, et c'est le cumul de ces expériences-là qui constitue mon système de valeurs que j'ai extrait, donc des valeurs comme un résumé de tout ce que j'ai vécu, donc cet aspect personnel est spécifique pour moi, qui est différent de François Florey, qui est différent du vôtre. Donc l'individualisation, c'est clairement là. Maintenant, la question reste, avec tout ça, comment je peux imaginer d'avoir une émergence de cette conscience. Alors je peux, les aspects que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant, je peux les modéliser avec des équations mathématiques sur un ordinateur et tout, mais il me semble qu'il reste quand même quelque chose de l'essentiel, que c'est vraiment la même chose, le moi. Là, je peux aussi répondre ou reprendre l'exemple que François Fleuret a donné pour l'intégration des prothèses qui sont bien intégrées. Ça peut se comprendre dans cet aspect-là que les différentes modalités, je vois bouger mon bras, le mouvement est initié par mon cerveau, les parties visuelles représentent ce mouvement, alors ça devient une partie de moi aussi. Donc ça joue très bien. Alors oui, l'unicité, la personnalité, le vécu, c'est dans le cerveau.
Pour revenir à la remarque de Valère, si, parce que c'est aussi en fait un thème que j'ai vu revenir dans d'autres discussions, donc cette unicité, le fait que la machine est un peu je tape parce qu'on peut toujours en faire une autre. Si c'est une machine qui apprend, imaginons que on est dans un futur, il y a des machines vraiment très intelligentes, vous pouvez acheter un petit robot et quand vous vivez avec, il apprend, vous discutez avec lui, après vous avez une certaine complicité parce qu'il sait que vous aimez tel truc, vous n'aimez pas tel autre truc, vous levez à telle heure, un peu comme avec un animal familier. Il prend sa valeur dans le sens où vous ne pourrez pas le remplacer. C'est-à-dire que si vous le cassez, vous le faites tomber dans le ruisseau, vous en rachetez un au supermarché, il n'aura pas cette richesse qu'il aura acquis. Là, à nouveau, je soupçonne qu'il y a un peu, c'était un peu le point que j'essayais de préciser dans ma première intervention, c'est que je soupçonne qu'il y a un côté à croire que les machines seront toujours dénuées de complexité et de richesse dans leur relation au monde. Je suis convaincu que si vous aviez un robot, vous avez vécu 3 mois avec, il vous connaît, il connaît vos blagues, il vous amène vos pantoufles, vous avez développé cette richesse avec lui, le jour où on va vous casser, vous serez vraiment malheureuse. À mon avis, il y aura un sentiment vraiment comme tuer un chien ou un chat. Et on n'est pas loin, les gens s'attachent à des animaux autant qu'ils s'attachent presque aux humains. C'est-à-dire que. Il ne faut pas sous-estimer la richesse potentielle que des machines pourront avoir.
Non, il y avait une question. Ok. Mais il y a des gens qui ont le micro. Hein. Ceux qui ont le micro. Ok, oui.
Alors, c'est une question. Un mot que j'introduirais à côté de conscience de soi, c'est conscience morale. Et je prendrai un exemple. Le capitalisme a beaucoup dérivé dans la direction des modèles mathématiques pour faire fructifier le capital. On en est arrivé à un stade aujourd'hui où on peut dire, mais on est dans un monde où décidément le capital est au service du capital et je pense que la machine est un bon outil pour ça. Est-ce que la machine... Et je pense qu'au fond, oui, je dirais aussi que certainement on a pu, avec des modèles, faire de très bonnes choses. Mais on a aussi fait des pas bonnes choses du tout. Si je comprends bien, la crise économique, la crise du capitalisme, c'est bien un peu ça. Alors, est-ce que la machine va prendre de la distance utilisée pour des modèles mathématiques au service du capital, est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle serait capable un jour de prendre de la distance et de se dire « bon sang, je vais dans le mur et je fais aller dans le mur » Ou est-ce que ce n'est pas justement l'humain qui est toujours défini par le fait que des questions lui viennent d'en dehors de lui-même, d'avant et d'ailleurs, enfin, qui a beaucoup de, peut dire beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas là que s'introduit vraiment la différence?
Donc, là, de mon point de vue, il y a un mélange entre les capacités propres de la machine et les spécificités qu'aurait la machine si la fonction qu'elle cherche à optimiser fait intervenir un aspect social. Parce que nous, de fait, on est des animaux sociaux, parce que pour des raisons de survie, c'est une bonne stratégie. On pense qu'il faut on aime nos enfants parce que c'est des robots à gènes, ils transportent nos gènes. À partir du moment, et à nouveau, après, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis au sens où expliquer pourquoi on est comme ça enlève de la grandeur et de la noblesse au fait qu'on soit comme ça. C'est juste que on peut très bien trouver une cause et malgré tout penser que le résultat qui en découle est une chose admirable. Mais Si on fait des robots sociaux et on les entraîne, on leur dit voilà, vous allez coloniser Mars, vous êtes très intelligents, débrouillez-vous, et qu'évolutionnistement ils s'aperçoivent qu'il vaut mieux être sympa les uns avec les autres et qu'ils commencent à développer la capacité intellectuelle de se rendre compte que effectivement si vous y l'environnement, ils vont tous disparaître. À nouveau, je vois pas ce qu'il y a de spécifique, de particulièrement humain là-dedans. Les humains le sont comme ça, mais des robots ou des IA ou des machines qui auraient à se modifier et à apprendre leur interaction avec le monde dans un cadre social auraient probablement un cadre moral qui ne serait pas tellement différent du nôtre parce qu'ils s'apercevraient qu'il y a tout un tas de choses qui sont étudiées, les dilemmes du prisonnier, si je tape sur mon voisin, il me tape dessus, je vais lui taper dessus, finalement quand on ne se tape pas dessus, tout se passe beaucoup mieux et on construit un cadre moral qui est purement rationnel et qui n'a pas tellement... Moi, personnellement, je vois pas du tout ça comme une spécificité humaine. Je vois pas en quoi les machines n'auraient pas accès à ça.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec le micro? Voilà, oui.
Tout à l'heure, tu as, dans la première partie, tu as dit que la différence avec la machine de Turing, c'est que l'homme pense ou comprend ou réfléchit. Mais ça, il faudrait le définir pour pouvoir dire que la machine ne réfléchit pas, ne comprend pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, réfléchir, penser ou comprendre, qui est indépendant de la machine?
Alors, mon argumentaire, mon raisonnement est effectivement basé sur l'expérience personnelle de chacun d'entre vous que nous faisons quelque chose de spécial quand nous pensons, ce qui est différent de faire quelque chose d'automatique. Et je fais appel à ça pour éviter une définition comportementaliste de la pensée. Parce qu'on arrive tout de suite au test de Turing, qui regardons pas dans la boîte, regardons les effets. Et on sait bien que pendant une dizaine d'années, vingtaine d'années, trentaine d'années, c'était toujours le jeu d'échecs. On dit, ah, vous voyez, l'humain est quand même meilleur. Et finalement, c'est la machine qui a gagné. Alors si on se base sur quelque chose de spécifique, je veux ce test-là pour faire la distinction, pour dire c'est la pensée, l'humain va perdre. Alors je fais appel à cet aspect-là qui reste hors du champ d'explication habituel, qui est cette conscience de soi, de la réflexion quand je pense, cet aspect un peu circulaire. Sans le définir.
Oui, est-ce que... Oui, le micro arrive.
Alors en fait, j'aurais juste une question pour les deux, pour Wolfram et pour François.
C'est très bien d'avoir une conception de l'homme, et de la machine, tout ça c'est très bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment, quelle est la situation pratique sur laquelle on verra une différence. Parce qu'évoluer dans un système philosophique, tout ça c'est très bien. Alors Wolfram a essayé de parler de l'exemple de l'accident, il y a un robot, une personne qui tombe, dans le ravin. François a expliqué que bon, le robot qui tombe quand même, on s'y attache. Et je peux imaginer une partie, mais je suspecte quand même François qu'il aurait quand même sauvé la personne et pas le robot. Et donc ma question c'est, quelle est la situation pratique sur laquelle François dirait oui, on fait ce choix A, et dans lequel Wolfram dirait on fait le choix B?
Je ne sais pas. Mais vraiment pour le statut des machines dans la société, je ne sais vraiment pas de quoi l'avenir va être fait. Vraiment pas. C'est compliqué. Il y a toute cette idée de singularité et tous ces trucs-là qui clairement vont finir par arriver. Je ne sais pas. Vraiment. Qu'est-ce qui va se passer quand une machine passera complètement le test de Turing? On discutera avec elle. C'est très compliqué. Donc ça, je ne sais pas.
Excusez-moi.
Je pense que c'est même pire que ça. Ce n'est pas ce qu'on va faire ou pas faire, mais c'est plutôt la question de ce qu'on devrait faire. Parce que tu vas trouver des personnes qui vont, disons, à la limite, tuer pour une belle voiture.
Mais ça, c'est la question du free will, ce n'est pas la question de... Est-ce que l'homme est une machine?
En l'occurrence, je pense que c'est une question qu'on devrait se poser, parce qu'il y a vraiment un problème qui se pointe avec les drones, avec les systèmes automatisés. Il y a vraiment un désir militaire d'avoir des machines autonomes. Il y a vraiment des questions qui se posent. Des questions qui se posent de qu'est-ce qu'on autorise. Ce ne serait pas absurde du tout, bien que ce soit un thème de science-fiction, de dire qu'on interdit les IA. De dire non, à partir de tel niveau cognitif, il ne faut plus faire. Ça me choquerait pas.
Voilà.
À l'opposé des militaires, je veux dire, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il faut des machines pour procréer des hommes? Et est-ce qu'il faut des hommes pour procréer des machines?
C'est-à-dire que les machines pourraient se construire elles-mêmes?
Oui, c'est peut-être une bride de réponse à la question de monsieur.
Moi, je pense que oui. Moi, je suis un optimiste. Je pense que oui, à nouveau, je ne vois pas de limitation de principe. Pour opérer une usine à composants et à semi-composants et une usine de robotique, un robot pourrait, un IA pourrait le faire.
Oui ?
Oui, monsieur le Président.
À ce point de la soirée, vous nous posez la question, nous, qui sommes le jury, de répondre à la question, finalement, est-ce que l'homme est une machine ? Ou est-ce qu'il est un esprit? Et nous avons eu ce soir, je crois, deux exposés absolument convaincants. Et moi, la question que je me pose, en conclusion, et c'est en fait ce que ma voisine m'a soufflé tout à l'heure, c'est de dire, mais finalement, est-ce qu'on ne débouche pas sur un non-lieu? Est-ce que l'homme est une machine? On a vu que l'homme est une machine extrêmement complexe, les neurones, etc., et puis, en même temps, l'homme est esprit.
Vous aurez la possibilité de voter pour cette double affirmation. Oui. Est-ce qu'il y a juste une ou deux autres questions?
Personne d'autre avant? Très bien, merci. Au vu de la discussion, il semble que l'esprit, bon, on n'a pas beaucoup parlé d'esprit, on a plutôt parlé de conscience de soi, une conscience de soi qu'on a de la peine à repérer d'ailleurs, on ne va même pas commencer à parler de l'esprit. Est-ce qu'il n'apparaît pas au fond plus comme un argument d'autorité qui permet de légitimer une différence, qui me permet de me dire, voilà, effectivement ces machines je peux les jeter, je peux en faire ce que je veux? Mais au fond, un argument d'autorité qui a besoin de se baser sur quelque chose, on sort un argument, on sort l'esprit, c'est très bien. Il se trouve dans la tradition, culturellement ça marche. Mais en dehors de ça, c'est pas tant une réalité qu'on peut observer. La conscience de soi ne se laisse pas observer non plus. À la limite, elle se vit, encore on n'en retire pas grand-chose. Du coup, Est-ce que le facteur dérangeant, là, c'est tout d'un coup, on remarque qu'il y a des machines qui, tout d'un coup, avec ce test de Turing, on ne fait plus cette différenciation. Et, du coup, l'argument de l'esprit devient vide. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'esprit si l'esprit équivaut à la conscience de soi qu'on reconnaît chez l'autre ? À quoi est-ce que sert l'esprit si l'esprit se limite à une définition où il est une équivalence de la conscience de soi ? Bon, moi, je plaiderais pour une définition un peu plus riche de l'esprit, mais c'est là où tout contourne pour maintenant. Donc, la question que je pose, qu'est-ce qu'il apporterait de plus s'il n'est que ça, au fond ? Et à ce moment, si on pose la question, l'humain, esprit ou machine, on va dire, ok, bon, il est les deux. On va peut-être poser la question, est-ce que la machine n'a peut-être pas un esprit, tout d'un coup ? Je ne sais pas. Ça peut être la question inverse qu'il faudrait poser à ce moment.
Donc, moi, c'était un peu l'argument que j'essayais de mon point. C'était plutôt effectivement l'argument inverse, de dire que, selon toute vraie, on ne voit pas ce qu'une machine ne peut pas faire qui ferait qu'on lui refuserait le statut de...
Sachant que là, l'esprit devient vraiment juste un argument d'autorité et pas une réalité. L'esprit ne devient juste un argument d'autorité et rien d'autre. À ce stade-là, j'ai l'impression. Parce qu'il y a la question d'une altérité par rapport au corps et à la conscience, elle n'a pas été évoquée. Donc,
C'est une... L'esprit, ou l'aspect de la... Disons, il y a François l'avait mentionné au début de son exposé, il y a une heure, qu'il y a quand même une similitude étonnante entre la partie corps-esprit d'un côté et la partie hardware de la machine et la partie software, programme, algorithme de l'autre côté. Alors on est dans ce sens-là, l'esprit est quelque chose qui est très facile à attribuer à la machine, ordinateur qui est programmée, qui tourne. Alors moi, j'ai mis l'accent sur cet aspect conscience de soi, parce que je suis fondamentalement convaincu que chacun de vous dans la salle a cette expérience, et en même temps je suis convaincu qu'aucune des machines que François a programmées a cette expérience. Ça ne pas ça un argument autoritaire. Pour la partie éthique dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être, disons, on veut ça, alors il vaut que ça, mais pour la première partie, la partie, disons, plus scientifique, je ne vois pas cet aspect autoritaire, autoratif, là-dedans. C'est une expérience que chacun de vous a eue, et les scientifiques ont tendance de dire, c'est difficile à expliquer, alors essayons de faire sans. Et c'est une bonne approche pour voir, je peux aller jusqu'où. C'est une approche scientifique tout à fait valable.
Alors je pense que malgré le fait qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient poser des questions, je pense que c'est le moment d'avancer. Donc nous arrivons au moment de voter. Alors je veux, comme je vous ai lu les questions, vous avez vu qu'il y aura plusieurs questions préliminaire avant d'avoir la question finale, l'homme est-il machine ou esprit ou les deux. Alors je pense que finalement la plupart des questions que j'avais concoctées sont en rapport avec ce que les conférenciers ont discuté. Alors, mais il y a la question de savoir quelle carte à soulever. Alors, bien que ce n'est pas toujours clair, disons le côté François Fleur est rouge, et le côté Wolfram Gerstner est vert. Donc, d'abord, les ordinateurs de l'avenir ne pourront jamais atteindre un niveau de conscience. Si ça c'est vrai, ça serait un peu du côté de Wolfram. Donc, il faut voter vert. Si vous êtes d'accord avec cette question,
les ordinateurs de l'avenir ne pourront jamais atteindre un niveau de conscience. Et où, si vous n'êtes pas d'accord? Alors, il y a des rouges et les verts. Ah, wow. Ils sont groupés, hein? Il y a des groupes de rouges et des groupes de verts. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de verts, mais les gens sont en train de compter.
Oui, j'avais aussi 24. Je n'ai pas compté les verts.
Alors 25, comment ça fait 25?
Vous pouvez relever les verts, s'il vous plaît.
Ou une trentaine. Hein. Donc, c'est très proche, mais il y a un peu plus de gens qui sont d'accord avec cette affirmation que les ordinateurs de l'avenir ne pourront jamais atteindre un niveau de conscience.
Moi, je suis
abstenu. Oui. OK, oui. Le fait est que nous ne savons pas vraiment ce qui va arriver, donc... c'est très justifié d'abstenir. Alors, est-ce que l'homme est une machine? Cette fois-ci, on est d'accord. Rouge. Mais maintenant, je n'ai pas dit n'est qu'une machine. J'ai dit est-ce que l'homme est une machine? Donc, vous pouvez peut-être penser qu'il est esprit aussi ou quelque chose. Mais est-ce que vous pensez que l'homme est une machine? Si oui, mettez rouge. Sinon, mettez vert. Encore une bonne mélange.
Oula, c'est serré.
28.
36.
36.
Vert.
36.
Ok.
Maintenant, une question qui ne doit pas vraiment discuter, mais je le mentionne juste rapidement. Est-ce que chacun de nous a une âme immatérielle séparée du corps, comme croyait Descartes? Et si vous êtes d'accord, montrez la carte verte.
Répétez la question.
Est-ce que chacun de nous a une âme immatérielle séparée du corps, comme croyait Descartes? En ce cas, la carte verte. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de rouge, mais c'est intéressant, ils sont groupés. Hein, il y a trois rouges.
C'est les effets de mode.
Est-ce qu'il y a des dates?
Une vingtaine de, voilà. Donc, vous êtes en majorité, vous n'êtes pas des cartésiens dans ce sens-là. Les ordinateurs de l'avenir ne pourront jamais atteindre un niveau de conscience. Excusez-moi, on a déjà eu ça. Il ne sera jamais possible de modéliser le cerveau humain. Alors, et si vous êtes d'accord avec cela, vous mettez vert. Il ne faut pas oublier que l'EPFL est impliqué dans un projet pour modéliser le cerveau humain. Alors, si vous pensez qu'il ne serait jamais possible de modéliser le cerveau humain, vous montrez vert. Il ne montre jamais effort. Hein. Même si on ne croit pas qu'on va le faire dans 10 ans, c'est possible qu'on puisse croire qu'on va le faire.
Quelle belle réponse.
22 verts.
Ok. Donc, une victoire pour les rouges. Maintenant, une question qui n'a pas vraiment été, disons, qui a été mentionnée sans être profondément discutée, mais je pense qu'on peut le traiter rapidement. Le comportement mécaniste du cerveau est compatible avec la responsabilité humaine. Donc, ils ont parlé de modéliser le cerveau, ils ont parlé plus de l'intelligence artificielle que du cerveau, mais il y a un peu l'idée que si on va modéliser le cerveau, c'est que le cerveau marche de façon qu'on pourrait appeler mécaniste, un peu comme une machine. Mais la question c'est, même si c'est vrai que le cerveau est mécaniste comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même la responsabilité humaine? Et si vous pensez oui, votez vert. Ah oui, donc c'est très clair. On a bien besoin de voter. Merci. Le comportement, encore une fois, le comportement mécaniste du cerveau est-elle compatible avec la spiritualité? Donc on a parlé de l'esprit, on a dit qu'on n'a pas très bien défini l'esprit, mais maintenant on se plonge dans la spiritualité, parce que quand même cette réflexion s'est très portée sur la question de la spiritualité. Donc est-ce que vous pensez que le comportement mécaniste du cerveau est compatible avec la spiritualité? Si oui, vert. Oui, vraiment une forêt de vert. Et maintenant, la question, merci beaucoup, maintenant la question clé, qui est vraiment la question impliquée dans le titre, parce que le titre était « L'humain est-il machine ou esprit ?» Mais on aurait pu mettre « et ou esprit ?» Donc vous avez la possibilité de mettre qu'il est les deux. Donc vous avez les trois possibilités. Machine, donc, mais pas esprit, ou esprit et pas machine, ou pas machine, ou bien machine et esprit. Mais cette fois, on ne peut pas utiliser les cartes parce qu'on a trois possibilités. Mais donc, je vous invite juste à soulever les mains pour chacune de ces possibilités, l'une après l'autre. Donc, ceux qui pensent que l'humain est machine et qu'il n'est pas esprit. On a trois ou quatre personnes. Ceux qui pensent que l'humain est esprit et qu'il n'est pas machine. Un peu plus. Peut-être neuf.
Oui.
Et ceux qui pensent que l'homme est machine et esprit. Dans beaucoup de gens, on n'a pas besoin de compter. Alors, avec cela, on arrive à la fin. Et moi, je l'ai trouvé une soirée vraiment passionnante. Et j'aimerais remercier vos frères Gaston et François Fleuret, qui nous ont apporté beaucoup. Mais j'aimerais vous remercier tous, parce que vous avez tous apporté beaucoup à la soirée, malgré la chaleur. Et je vous rappelle que c'est la fin de cette soirée, mais ce n'est pas la fin de la série. Et la prochaine soirée sera le 7 septembre, où le sujet va être l'humain, fruit du hasard ou d'un projet dans l'univers. Du hasard, comme ça, ou d'un projet dans l'univers.